Alléluia. Merci pour la paix. Oh, gloire à Dieu. Vous savez, à la fin, on va prier pour les gens qui ont des besoins. Amen. Et puis, comme d'habitude, on prie aussi sur des linges que vous pouvez amener à la maison, les mettre sur les gens ou votre voisinage ou les gens qui sont malades. Et puis, moi, j'ai aucun doute, amen, que la présence de Dieu vient dans les personnes et que la guérison prend place. Amen. Hallelujah. La semaine dernière, on a vu que Jésus était l'agneau parfait de Dieu et que parfait pour nous, amen. Il a été tenté en toutes choses sans jamais succomber à aucune tentation. Il était vraiment l'agneau parfait. Et on a vu aussi qu'il a demandé aucune assistance, ni venant des cieux, ni venant de la terre, amen. Ils ont voulu lui donner de la myrrhe qui était un analgésique, si vous voulez, quelque chose qui enlève l'inflammation. Il l'a refusé. Ce qu'il a souffert à la croix, amen, il l'a souffert complètement pour nous, sans l'aide de personne. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. On a été rachetés. On n'est plus à la merci. On a été rachetés. Amen. On avait été vendus, si vous voulez, d'une certaine manière de parler à la merci de qu'est-ce que le diable voulait faire pour nous détruire. Mais Jésus nous a rachetés. Amen. Puis on a vu aussi dans la malédiction de la loi toutes les maladies qui étaient auxquelles on aurait pu être exposé. Mais merci Seigneur, on a été rachetés de cela. Amen. Et qu'est-ce qui est merveilleux, c'est toutes les maladies, même connues et inconnues. Alors, toutes les maladies qui n'existaient même pas dans ce temps-là, qui existent aujourd'hui, eh bien, on a été rachetés de cela. Et aujourd'hui, on va voir la septième raison, depuis qu'on a commencé nos enseignements, qui nous démontre que c'est la volonté de Dieu qu'on soit en santé, qu'on soit guéri si il y a des attaques qui viennent contre nous. Et qu'est-ce qu'on va voir? Il y a plusieurs exemples que dans les semaines à venir, on va voir. Mais c'est qu'on va voir que dans la rédemption, dans le rachat, la rédemption, c'est le rachat, dans qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, la guérison était incluse. Et la façon qu'on va regarder ça, c'est qu'on va aller à des exemples de l'Ancien Testament. Et on va voir par les exemples de l'Ancien Testament que même dans l'Ancien Testament, ils le voyaient que dans la rédemption, il y avait la guérison était incluse. Ils le voyaient. Comme exemple, on va regarder dans les semaines à venir à propos du serpent sur la perche. On va regarder aussi, c'est des cérémonies qu'ils faisaient dans l'Ancien Testament, des choses qu'ils faisaient en prévision d'eux parce qu'ils croyaient que quand la rédemption viendrait, le secours viendrait, la guérison était toujours là-dedans. C'est ça qu'on va voir dans les semaines à venir. Le serpent sur la pêche, la guérison du lépreux, c'est tous des exemples de la rédemption et la guérison est toujours là-dedans. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est lorsque les enfants d'Israël ont sorti d'Égypte et ce que Dieu leur a demandé de faire pour qu'ils puissent sortir avec toute la bénédiction de Dieu sur eux. Alors, on va aller en premier à 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, et je vais lire le verset 6 et le verset 11. Au verset 6, dans 1 Corinthiens 10, la parole de Dieu nous dit, « Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Lorsqu'il parle, ici, le contexte, c'est qu'il parle des enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte en esclavage et ils ont été libérés de l'esclavage et tout ce qui s'est passé pour leur liberté et à suivre. Tout ça, il dit, ce sont des exemples, ça nous sert d'exemple afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. Des fois, on va donner un exemple à quelqu'un pour que justement, il fasse pas ce que les autres y ont fait. Amen. Il dit, toutes ces choses-là qui leur sont arrivées, ça nous sert d'exemple afin qu'on fasse pas ce qu'ils ont fait. Amen. Et au verset 11, la parole de Dieu dit, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Alors, on voit très bien ici dans la parole de Dieu que Dieu nous démontre tout de suite dans 1 Corinthiens, dans le Nouveau Testament, que les choses de l'Ancien Testament, ils sont arrivés et ils ont été écrites pour nous servir d'instruction et afin aussi qu'on ne fasse pas des fois les bêtises qu'ils ont fait ou les réactions qu'ils ont fait, mais ça nous sert d'exemple. Alors, on peut aller dans l'Ancien Testament, voir ces exemples-là, ces histoires-là qui ont été écrites pour servir d'instruction. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à Exode 12. Alléluia. Exode 12. Et puis, on va regarder la nuit qu'ils ont eu leur liberté. Parce que les enfants d'Israël, quand ils ont été libérés de l'esclavage de l'Égypte, puis amenés pour la terre promise, c'est vraiment un très grand exemple de la rédemption pour nous dans nos vies. Parce que l'Égypte représente le monde. Les enfants d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Et c'est quoi que Dieu voulait, puis qu'est-ce qu'il a fait pour les amener à la terre promise. Mais c'est comme nous, on a été libérés des choses du monde. Le monde va dire, le monde sont-tu si méchants que ça? C'est pas la question que le monde sont-tu si méchants que ça. C'est que on sait très bien à quoi le monde est exposé. Quand tu ne connais pas Dieu, puis quand tu ne connais pas ce que Dieu y a fait pour nous en Jésus-Christ. On sait très bien que le monde sont exposés à croire tout ce qu'ils entendent, aller avec qu'est-ce qui se passe, accepter les choses comme ils sont, aller avec les circonstances, les guerres, les maladies et toutes ces choses-là. Mais vraiment, quand Jésus est venu, il nous a libérés de qu'est-ce qui tient le monde lié. Vous comprenez? Quand je donne l'exemple du monde, je dis pas que c'est une... que le monde ne soit pas correct. C'est pas ça que je veux dire. Que les gens eux-mêmes, en eux-mêmes, ne soient pas corrects. Mais qu'on a été libérés de qu'est-ce que le monde sont liés. Amen. Alors, c'est un exemple, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte, comme nous, lorsqu'on a été libérés du monde, eux autres, le sauveur, c'était Moïse, un exemple, que notre sauveur à nous, c'est Jésus. Et les choses qu'ils ont fait, vous allez voir que la guérison était inclue là-dedans. Alors, on va commencer à lire au verset 1. La parole de Dieu dit, « L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Amen. Et ce sera un agneau sans défaut, un mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Alors, il était précis quelle sorte d'agneau sans défaut. Pareil comme on a dit la semaine passée, l'agneau de Dieu, Jésus, était parfait aussi. Il dit, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les poteaux et les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Alors, son sang va être versé de l'agneau, puis il dit, vous allez l'appliquer autour de la porte de la maison et les poteaux de la maison. Amen. Il dit, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain, ça veut dire sans animosité, sans cochonnerie si vous voulez, et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Autrement dit, quand l'agneau y est immolé, on y prend part au complet. On prend pas juste une partie. Amen. Il dit, et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du premier d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre les dieux de l'Égypte. Vraiment, ce que Dieu faisait, c'est qu'il passait son jugement sur l'Égypte parce que l'Égypte avait toujours rejeté le seul Dieu, puis il se faisait des dieux à eux autres, puis des abominations aussi, puis Dieu passait un jugement. Mais voyez-vous, où l'agneau était immolé dans chaque maison, où le sang était appliqué, puis que le monde prenait part, eux autres n'étaient pas jugés, parce que c'était l'agneau qui était mort pour eux. Tandis que les autres qui ne participaient pas aux choses, à la façon que Dieu fait les choses, qui ne respectaient pas Dieu, qui étaient des Égyptiens, bien, eux autres, quand le jugement passait, autrement dit, il y avait quelqu'un qui mourait dans chaque maison, parce que là, il passait un jugement. Mais partout où il y avait le sang appliqué et l'agneau, il appelle ça, en anglais, il appelle ça le Passover. La Pâque, il appelait ça le Passover. Ça veut dire qu'il passait par-dessus. Passover. OK? Mais nous, en français, on appelle ça la Pâque. Amen. Alors vraiment, le jugement, quand il arrivait sur l'Égypte, là où il y avait une famille de juifs, autrement dit les enfants de Dieu, et qui voyaient qu'ils avaient obéi à qu'est-ce que le plan que Dieu avait, qu'un agneau parfait soit immolé, que le sang soit appliqué, ils passaient par-dessus, puis là, c'était correct. Il y avait personne qui mourait parce qu'il y avait un agneau qui était déjà mort. Ils passaient par-dessus, puis là où il n'y avait pas le sang d'appliqué, il y avait quelqu'un qui mourait parce que Dieu exerçait un jugement. Merci Seigneur que nous autres aussi, quand on va arriver au ciel un jour, le jugement de qu'on devrait subir pour nos péchés, il passe par-dessus parce qu'on a appliqué ce que Jésus a fait à la croix, le sang versé, et on a préparé à tout. Amen. Vous allez voir, on va en parler, on va aller plus loin. Amen. Mais on ne sera pas jugé. Mais ceux qui n'ont pas accepté Jésus et qui n'ont pas appliqué, autrement dit, qu'est-ce que Jésus a fait à la croix, eh bien, eux autres, ils vont avoir un jugement. Amen. Alléluia. Alors, c'est un petit peu facile à comprendre, si vous voulez, mais ça nous sert d'exemple. C'est pour notre instruction. Dieu voulait un agneau parfait. Il voulait qu'il l'immole. Il voulait que le sang soit appliqué pour couvrir le faute et qu'il prenne part aussi à toute la nourriture, autrement dit. Il dit, vous allez le manger. S'il est trop gros pour votre famille, invitez vos voisins, placez-vous ensemble, mais arrangez-vous pour prendre part à tout l'agneau. Puis il dit, s'il en reste vraiment au matin, bien, là, vous brûlerez le reste. Amen. Alors, on va aller, la parole de Dieu nous dit au psaume 105, on va revenir aussi à notre texte initial, au psaume 105. Tout le psaume 105 parle de la sortie des enfants d'Israël, la sortie, lorsqu'ils ont sorti d'Égypte. Amen. Et au verset 37, la parole de Dieu dit, « Il fit sortir son peuple avec de l'argent et de l'or, et nul ne chancela parmi ses tribus. » Nul ne chancela. Dans une autre traduction, ça dit, « Il n'y avait aucun faible parmi eux. » Aucun faible. Autrement dit, il y a eu de la guérison qui a pris part, qui a commencé au moment où ceux qui ont mangé de l'agneau allaient au temps qu'ils sortent de l'Égypte, et puis qui s'en allent avec tous les biens de l'Égypte, il y a une guérison qui a pris place. Et puis, merci Seigneur. Voyez-vous, si je vais à Exode 1, il y a des choses qu'on doit comprendre. C'est que le peuple d'Israël, lorsqu'il était en Égypte, ils ont été en esclavage pendant 400 ans, pendant des générations. Il y avait de l'esclavage. Alors, c'est sûr qu'ils travaillaient fort. Et puis, c'est sûr qu'ils ont, pareil comme tout le monde, il y avait sûrement des maladies héréditaires, il y avait des faiblesses des os, des toutes sortes de maladies, de douleurs, de mal de dos, mal de ci, mal de ça. Mais en plus, lorsque Pharaon a changé, il y a eu un nouveau Pharaon, comme nous autres on change de premier ministre des fois. Bon, il y a eu un nouveau Pharaon, il est devenu peureux, Et puis, il a exigé des choses extravagantes concernant les Israélites. Alors, on va aller à Exode 1, puis je vais lire à partir du verset 8. Ça dit, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroître et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » Autrement dit, le peuple d'Israël est multiplié, puis on dit, ils s'en viennent pas mal nombreux, ce peuple-là. Puis là, le nouveau pharaon, le nouveau roi, il a dit, il faut arrêter ça, parce que si jamais ils s'allient avec nos ennemis, ils vont venir contre nous, puis ils vont peut-être gagner. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour ça? Il y a, au verset 11, ça dit, ils ont établi sur lui des chefs de corvée. Ça veut dire des gens qui sont en charge, puis eux autres, ils ont décidé de les accabler. C'est ça que ça dit. Ils ont établi sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Non seulement ils sont esclaves, mais en dernier, ils étaient accablés de travaux pénibles. Et c'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Ça veut dire que là, ils ont dit, le seul moyen de vraiment les empêcher de s'accroître, c'est qu'on va lui donner encore plus de travaux à faire, on va les accabler davantage, ils vont être assez épuisés, ils vont être assez fatigués, ils n'auront pas le temps de se reproduire. Amen. Alors, mais plus on les accablait, plus ils multipliaient, ils s'accroissaient, et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Non seulement ils les accablaient puis ils faisaient travailler plus, mais là, ils ont décidé de lui donner une encore plus dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et pour tous les ouvrages des champs, et c'est avec cruauté qu'on leur imposait toutes ces charges. Avant ça, ils fournissaient les briques, mais là, en dernier, ils disaient, non, vous allez ramasser la paille, vous allez aller chercher l'eau, vous allez aller chercher la terre, vous allez faire les briques, vous allez travailler encore plus fort qu'avant, et même c'est avec cruauté. Ça veut dire que là, ils sortaient le fouet, puis ils sortaient la cruauté sur eux. Ils les battaient, ils faisaient toutes ces choses-là. Ils les faisaient marcher à pied, ils en faisaient faire encore plus. Ils voulaient vraiment les détruire. Fait que pensez pas que ce monde-là était pas malade. OK? Ce monde-là, il était accablé depuis des années. Il n'y avait pas les services que les autres avaient. Eux autres, ils étaient en servitude, en esclavage. Et puis là, en dernier, c'était encore pire que ça l'avait jamais été auparavant. Alors, je veux qu'on comprenne que quand la parole de Dieu nous dit que Dieu les a fait sortir, puis qu'il n'y avait aucun faible parmi eux, ça veut dire que Dieu les a guéris en sortant. Dans plusieurs traductions, ça dit qu'il n'y avait aucun malade, il n'y avait aucun faible. Ça décrit vraiment la guérison qui a pris place lorsqu'ils ont pris part. Mais je veux qu'on voit aussi quelque chose dans... dans Exode, encore, Exode 12, notre texte initial. Dieu, il s'attendait qui ferait deux choses. Au verset 7, ça dit, « On prendra de son sang et on le mettra sur les poteaux et les linteaux de la porte, un. Et la deuxième chose, c'est, on mangera de sa chair avec des pains sans levain. On va manger, prendre part à son corps. » Autrement dit, son sang va être versé, ça c'est pour vous protéger, mais aussi je désire que vous preniez part à son corps. Alors, vous allez faire cuire et vous allez en manger. Vous vous souvenez-vous que Jésus a dit, « Ceci est mon corps rompu pour vous, prenez et mangez. » Amen. Lorsqu'on prend la communion. Alors vraiment, on va aller à 1 Corinthiens 5. Et je vais commencer à lire au verset 6. La parole de Dieu dit, « C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Voyez-vous, on parle encore de la pâte ici. Il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Autrement dit, je pourrais dire Christ, notre Passover, celui qui fait que le jugement passe par-dessus, a été immolé. Alors, je veux qu'on comprenne que les histoires de l'Ancien Testament, ils sont expliqués dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, il est contenu dans l'Ancien, mais l'Ancien Testament, on le comprend avec le Nouveau. Alors, la parole de Dieu nous dit qui est notre Pâque, nous autres. C'est Christ. Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Je veux qu'on voit aussi dans au chapitre 11 de 1 Corinthiens. Et quand il a été immolé, c'est deux choses aussi qu'il l'a fait. Au verset 24, ça dit, « Et après avoir rendu... au verset 23. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vraiment, Christ, notre Pâque, qui a fait quoi? Il a fait exactement comme eux autres dans l'Ancien Testament quand ils ont pris l'agneau. Il a versé son sang, puis son corps, il a été brisé pour nous, et il veut, c'est sûr que c'est spirituellement qu'on en fait, on n'ira pas... au mont Golgotha, essayer de trouver des morceaux de sang pour appliquer ça sur le bord de la maison, et puis on n'essaiera pas de trouver des morceaux de peau pour les manger. Vous savez très bien que nous, dans le Nouveau Testament, on fait spirituellement ce que eux autres, dans l'Ancien Testament, ils faisaient dans le naturel. Ça veut dire qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on reconnaît que son sang versé pour nous nous couvre, et qu'il a subi le jugement pour qu'on le subisse pas. Fait que son sang nous protège, et on sait très bien que son corps, il a été meurtri. Et quand on prend part à qu'est-ce que lui a subi, on peut avoir ce que ça nous rapporte. Ça nous rapporte quelque chose. Comme dans l'Ancien Testament, lorsqu'ils ont mangé l'agneau, ils prenaient part à l'agneau. L'agneau, il était mort. Ils n'en prenaient part. Et ça l'occasionnait quelque chose en eux. C'est qu'il n'y avait aucun faible parmi eux. Mais savez-vous qu'ils devaient le prendre d'une certaine façon? Et c'est ça qu'on va voir. On va retourner à Exode 12. Voyez-vous, la parole de Dieu dit... Au verset 8, « Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. » Vous savez, tantôt, on a parlé de, il dit, « Éloignez de vous le levain. » Le levain, c'est ce qui fait laver la pâte. Autrement dit, les péchés, les mauvaises choses, les impuretés, toutes ces choses-là, ça fait lever la pâte, autrement dit. Dieu veut qu'on soit pur. Il parle, dans l'Ancien Testament, il prenait le pain sans levain pour montrer la pureté. Il ne rajoutait pas des choses dedans. OK? Deuxièmement, ça dit au verset 9, « Vous ne le mangerez pas à demi-cuit ou bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. » Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Dieu s'attend qu'on va prendre part au complet. Voyez-vous, c'est difficile d'un sens pour Dieu d'envoyer son Fils Jésus qui amène tout avec lui. La parole de Dieu nous dit dans Romains que lui qui n'a point épargné son propre Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Dieu savait que non seulement il nous protégerait du jugement, mais Dieu aussi voulait qu'il y ait d'autres choses avec lui. Dieu veut qu'on prenne part à tout. On va se promener dans les Écritures, ce sera pas long. Mais voyez-vous, Dieu dit, prenez part au complet, tout, prenez tout. Et il y a une autre façon aussi. Au verset 11, « Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains. » Ça veut dire qu'ils s'en vont marcher vers la terre promise. Il dit, « Vous mettrez une ceinture pour marcher, le corps doit. Tenez-vous prêt. » Et il dit, « Vous aurez vos reins sains. » Bon, j'y arrive. vos souliers aux pieds. Vous savez que les esclaves, il n'y avait pas de souliers. Ils marchaient nu-pieds. Vous aurez vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous la mangerez à la hâte car c'est la Pâque de l'Éternel. Autrement dit, c'est quoi qu'il leur demandait? Mangez-les, mangez de ce corps-là, de cet agneau-là, vous attendant que vous allez être capable de marcher. Vous allez marcher dans la liberté, puis prenez votre bâton des mains. Ça veut dire que quand ils ont mangé la Pâque, ils la mangeaient avec une attente. Ils s'attendaient, on va être capable de marcher. On va être libéré, on va se mettre des souliers d'un pied, on ne sera plus jamais des esclaves. Puis on a notre bâton dans les mains parce qu'on sait qu'on va être capable de marcher. Autrement dit, si la personne elle avait de l'arthrite, de l'arthrose, de la maladie, des courbatures, des mal de dos, de l'inflammation, depuis le temps qu'il était dans la servitude avec cruauté puis malade, il dit, vous n'allez pas le manger comme des malades puis penser que vous allez vous en aller dans le désert arranger de même. Il dit non, mangez-le comme si vous êtes déjà guéri. Quand vous allez prendre part à l'agneau, mettez-vous une ceinture parce que vous allez marcher le corps droit. Mettez-vous des souliers aux pieds parce que vous ne serez plus jamais des esclaves. Puis ayez votre bâton dans les mains parce que soyez prêts à marcher comme aucun faible parmi nous. Aucun faible. Comme si vous n'êtes plus malade parce que vous ne le serez plus. Comme si vous n'êtes plus des esclaves, parce que vous ne le serez plus. Marchez fiers. Vous allez sortir comme des enfants de Dieu. C'est ce que Dieu lui disait. Il y avait une manière de prendre la Pâque. Il y avait une manière de prendre la communion en s'attendant. Voyez-vous, le monde prenne la communion puis ils s'attendent à rien. Puis la communion, on doit s'attendre, parce qu'on a lu tantôt, il dit, chaque fois que vous boirez cette coupe, chaque fois que vous mangerez ce pain, vous annoncez ma mort jusqu'à ce que je revienne. Vous annoncez qu'il y a un agneau qui est mort, qui a souffert pour vous, qui a versé son sang. Vous annoncez quelque chose, mais attendez-vous. Si la personne, elle arrive malade, il faut qu'elle s'attende qu'elle va s'en tourner guérie. Voyez-vous, quand ça fait 400 ans que tu es en esclavage, tu n'as jamais connu autre chose que ça. Tu n'as jamais connu autre chose que ça. Ça fait longtemps que tu marches nu-pied. Tu as toujours vu ta famille marcher nu-pied. Tu as toujours vu ta famille aux prises avec l'esclavage, avec le fouet, avec aucune liberté, à travailler durement, à être malade, puis à continuer pareil. Quand il dit qu'il les traitait avec cruauté, c'est malade ou pas, tu fais des briques un matin, puis tu bâtis. Ils ont bâti deux villes au complet, qui servaient juste de magasin pour M. Pharaon. Lui, il entreposait toutes ces choses-là. Fait que le travailleur, il travaille juste pour un monsieur qui ne sait plus où mettre ses choses, qui est obligé de se faire construire des villes pour placer les choses que monsieur veut avoir. C'est dur, c'est déprimant, c'est décourageant. On dirait que tu t'en sors pas. Combien de vous, des fois, faites face à la pauvreté, puis vous allez dire, on dirait qu'on s'en sort pas. Ou à la maladie, puis on dirait qu'il n'y a pas de fin. Figurez-vous qu'eux autres étaient dans la même position. Ils se sont pas levés le matin. Oh, Dieu va nous sortir. Oui, voilà. Il fallait que quand ils prenaient l'agneau, Moïse est arrivé et il dit, là, écoutez-moi le peuple. Là. Entre les deux soirs, on va tuer un agneau, Dieu me l'a dit. Puis vous allez tout le manger. Puis quand vous allez l'immoler entre les deux soirs, prenez de son sang puis mettez ça sur les poteaux. Parce que Dieu va exercer un jugement sur l'Égypte et partout où il va avoir le sang, vous n'aurez rien. C'est l'agneau qui a été jugé pour vous. Il dit, mangez. Puis si l'agneau est trop gros, prenez vos voisins, emmenez-les chez vous. C'est ça que Dieu veut. Puis ça s'appelle la Pâque de l'Éternel. Puis Dieu va vous faire sortir avec des grandes victoires. Dieu l'avait promis à Abraham. Quand Dieu avait fait une alliance avec Abraham, il dit, sache que tes descendants seront dans la servitude, mais je les ferai sortir avec une grande victoire. Il croyait dans les paroles que Dieu avait dit. C'était pas écrit. C'était juste dit de père en fils. Puis là, Moïse, il dit, Dieu va nous faire sortir de ce pays-ci. Alors, ils l'ont fait. Ils ont appliqué, puis ils se sont en allés dans la maison. Puis ce soir-là, là, quand l'ange de la mort est passé pour exercer le jugement, ils entendent ce qui se passe dans les rues. Ils entendent crier le monde, « Mon fils est mort! Ma brebis est morte! Mon chevreau est mort! » Ils savaient, parce que même le troupeau des Égyptiens, les animaux mouraient. Ils entendent crier le monde, puis eux autres sont dans la maison, puis ils disent, « Qu'est-ce que tu sois âgé, jeune, n'importe quel âge tu peux avoir. » Dieu il a dit, « Il faut que quand vous prenez la Pâque, vous la prenez avec une attente. Que vous allez sortir, que vous allez être fort, vous allez être capable de marcher dans le désert, puis vous rendre à la terre promise. » Il y avait la guérison dans la rédemption qu'eux autres expérimentaient. Amen. Il y avait la guérison. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu voulait qu'il la mange en s'attendant quelque chose. C'est pour ça que quand on prend la communion ici à l'église sur le roc, je fais toujours un service spécial concentré là-dessus. Parce que je veux que le monde s'attende qu'il va se passer quelque chose. Amen. Parce que Christ, notre Pâque, nous autres aussi, a été immolé. Alléluia. Voyez-vous, la guérison fait partie de la rédemption. On va aller à 1 Pierre 2. Je vais le finir un petit peu plus vite que la semaine prochaine, on continuera. 1 Pierre 2, puis je vais lire au verset 22. Pierre parle, puis il dit, lui, il parle à propos de Jésus, il dit, lui qui n'a point connu de péché, et dans la bouche duquel il ne se trouvait point de fraude, lui qui injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais il s'en remettait à celui qui juge justement. Il disait, Dieu, il est juste, puis je le sais que, voyez-vous, Jésus il disait, je le sais que Dieu est juste, puis je le sais que je suis l'agneau parfait, et que si je verse mon sang, Dieu y est juste. Tout le monde qui va l'appliquer n'auront pas le jugement. Je sais que Dieu est juste. Il s'en remettait au juste juge. Amen. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, on puisse vivre en justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voyez-vous, la guérison est toujours inclue avec la rédemption. Le pardon des péchés, la guérison. Le pardon des péchés, la guérison. Vous vous souvenez, une des raisons que je vous avais montrées, qui nous démontre que Dieu nous veut guérir, c'est que le péché, c'est pas Dieu qui l'a fait rentrer sur la terre. Mais quand le péché a entré, il y a eu des conséquences qui sont venues et qui ont amené la maladie, la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Qui ont amené la mort. Mais Jésus, on a démontré comment Jésus, c'est pour ça qu'il a porté nos péchés et les conséquences. On avait parlé de cela. Mais dans la rédemption, la guérison est toujours incluse. Il dit, et par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voyez-vous, dans le psaume 103, David chante d'avance la rédemption. Il dit au verset 1, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne les iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. » Parce que la guérison est toujours inclue avec le pardon des péchés. Dans la rédemption. La rédemption, c'est qu'on a été racheté de nos péchés, mais la guérison est toujours incluse. Ça, c'est David. Ésaïe 53. D'avance, Ésaïe, c'est un prophète qui prophétisait d'avance. Et dans Ésaïe 53, il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Rédempteur, notre Père, Christ, qui est immolé pour nous. Et puis, la parole de Dieu nous dit, on va tout le lire, ça dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? » Qui a cru ça que quelqu'un viendrait nous sauver? Qui a reconnu que c'était le bras de l'Éternel? Qui a reconnu que c'était vraiment Dieu qui faisait son plan? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Autrement dit, il est tout innocent. Il est venu au monde, sur la terre, un petit bébé. Il a commencé tout doucement, comme quelque chose de faible. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Autrement dit, le monde, des fois, essaye de le peindre avec toute une beauté extraordinaire. Mais la parole de Dieu, c'est pour ça qu'elle dit, elle dit qu'il était très ordinaire. Tu sais, s'il aurait été là, super, super extraordinaire, il aurait dit qu'il est vraiment différent des autres. Non! Bien ordinaire. Ça dit, il a été méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça, c'est quand il était sur la terre. Le monde n'en faisait aucun cas. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il parle des gens qui le regardaient sur la croix puis disaient, « Ah! Lui qui sauve les autres, puis gars, il peut même pas se sauver lui-même. » Autrement dit, ils l'ont considéré comme puni. Il a dit, « Tu vois-tu, là, il est puni pour qu'est-ce qu'il a fait? » Mais, au verset 5, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Voyez-vous, ça, c'est l'Ancien Testament, un prophète qui parle d'avance. Jésus n'est même pas arrivé encore. Puis il parle d'avance, il prophétise d'avance. Qu'est-ce qu'il va faire? Qui qu'il est? Comment il va être sur la terre? Comment il va passer parmi le monde? Comment le monde va le mépriser? Comment il va mourir à la croix? Puis il y en a qui vont dire, « Il se prenait pour le Fils de Dieu. » Mais il dit une chose que le monde doit comprendre. C'est qu'il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et par ses meurtrissures, on est guéri. Pourquoi? Parce que la guérison, elle est toujours, toujours inclue dans la rédemption. Le monde va dire, tu crois-tu que c'est vraiment la volonté de Dieu que je sois guéri? Oui! Oui! Parce que quand Dieu est venu nous sauver en Jésus-Christ puis envoyer l'agneau parfait, la guérison est là-dedans. La guérison fait toujours partie de la rédemption. Fait que oui, si je suis pardonné de mes péchés, je suis aussi guéri. On va juste lire une dernière écriture, il faut que je le fasse, amen. Matthieu 9. Voyez-vous, Jésus faisait la volonté de son Père sur la terre, puis Jésus savait aussi qu'est-ce qu'il allait passer au travers. Un jour, il a annoncé à ses disciples, puis il a dit, « Je vais souffrir beaucoup, je vais mourir, je vais vous quitter, je vais aller au ciel, je vais souffrir. » Et puis Pierre, il est arrivé, puis il dit, « Non, Seigneur, ça t'arrivera pas. » Puis il dit, « Arrière de moi, Satan, en voulant dire, arrive pas avec un autre plan que celui que je suis supposé de faire. » Jésus, il faisait la volonté de son Père, il connaissait la volonté de son Père, puis Jésus savait aussi qu'il était pour mourir sur la croix. Mais dans Matthieu 9, je veux juste vous montrer et finir avec ça. Matthieu 9, au verset 1, ça dit, « Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Ce que Jésus a fait, voyez-vous, la guérison, elle existait dans l'Ancien Testament. Ils ont déjà vu qu'ils étaient capables de sortir aucun faible parmi eux. Puis la semaine prochaine et les autres semaines, on va regarder aussi les autres exemples dans l'Ancien Testament. Le monde était habitué de n'en voir des guérisons. Il y en avait des lépreux qui étaient guéris, puis le grand prêtre qui sortait pour les examiner. Mais il y a une chose qu'eux autres n'avaient jamais vue, c'est quelqu'un qui arrive puis qui dit « tes péchés sont pardonnés ». Fait que Jésus a voulu leur enseigner quelque chose. Il a regardé le paralytique, il voyait leur foi, mais il dit, tes péchés sont pardonnés. Les autres l'ont regardé en voulant dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Voyons donc, il n'y a pas eu un taureau qui a été, un bœuf qui a été immolé pour que ses péchés soient pardonnés. Comment peux-tu juste pardonner ses péchés comme ça? Parce que Jésus voulait leur apprendre quelque chose. Jésus dit, je veux vous montrer quelque chose. C'est aussi facile de vous pardonner les péchés que de vous guérir. C'est aussi facile de vous guérir que de vous pardonner les péchés. Parce que ça va ensemble. Voyez-vous, nous autres, on a appris quelque chose depuis qu'on est des petits-enfants, c'est que Dieu nous pardonne nos péchés. Amen. On n'a aucun doute. Qui a un doute que Dieu ne pardonne pas les péchés? Il n'y a pas personne. On a appris ça depuis qu'on est enfant, mais il y a une chose qu'on n'a pas appris contrairement à eux autres, c'est que Dieu guérit. Mais, voyez-vous, eux autres croyaient que Dieu guérit. C'est pour ça qu'ils avaient la foi puis ils emmenaient le paralytique. Mais ils croyaient pas que Dieu pardonnait. Nous autres, c'est le contraire aujourd'hui. On croit que Dieu pardonne. Hey, on fait les pires bêtises du monde. Sans l'ombre d'un doute, on va devant Dieu puis on croit qu'il nous pardonne. Mais il nous a pardonné nos péchés puis on devrait aussi croire facilement qu'il nous a guéris. Parce que la guérison fait partie de la rédemption. S'il est capable de pardonner tes péchés, il est capable de te guérir aussi. Amen. Et c'est ça qu'il disait ici. Il nous a enseigné qu'il peut pardonner les péchés. À nous, il nous enseigne qu'il peut nous guérir. Amen. Fait comment on a fait pour croire qu'il nous pardonnait nos péchés à force de l'entendre? On était à la petite école, puis le professeur il nous faisait pencher, puis il disait, pensez à tous vos péchés. Là. Après ça, on va passer à la confession. C'était normal. On le croyait. On n'a aucune difficulté, mais il y a une chose qu'il faut s'habituer à croire. On devrait dire, pensez à toutes vos maladies, là, puis Dieu vous guérit. Ça devrait être aussi facile. Jésus, il dit, lequel est le plus facile? De dire, tes péchés sont pardonnés ou sois guéri. Il dit, c'est aussi facile. Fait qu'il dit, afin que vous croyez que je peux pardonner les péchés, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais c'est la même chose aujourd'hui. Aussi facile que c'est de pardonner les péchés, c'est facile de guérir parce que ça fait partie de la rédemption. On n'a aucun doute que c'est la volonté de Dieu qu'on soit guéri aujourd'hui, parce que ça fait partie de la rédemption. Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Christ a été immolé. Si Christ a été immolé, il devrait avoir aucun faible parmi nous. Aucun faible parmi nous. Quand une personne elle arrive, elle dit, moi j'ai des faiblesses dans le dos, j'ai des faiblesses, j'ai souvent des migraines, j'ai des faiblesses, j'attrape souvent la fièvre, j'ai des faiblesses. Il devrait avoir aucun faible parmi nous. Surtout quand on se rappelle qu'est-ce que Christ, notre Pâque, a fait pour nous. Amen. On va se lever debout. Et comme j'ai dit tantôt, j'avais des requêtes spéciales aussi. On va prier pour... Il y a quelqu'un qui m'a demandé, qui ne peut pas être ici aujourd'hui, mais qui m'a demandé de prier pour sa patronne qui est très malade. Et puis, qui a beaucoup d'arthrose dans son corps. Fait qu'on va prier pour elle. Et aussi, en même temps qu'ils vont chanter, si vous avez quelqu'un qui expérimente de la faiblesse dans son corps causée par la maladie, à ce moment-là, venez en avant, on a des linges. Et puis, on va prier sur le linge. Et quand vous arriverez, vous ferez juste le mettre sur la personne puis dire, on a prié à l'église, puis la guérison est là, puis la guérison va couler dans ton corps, du bout de tes cheveux jusqu'à la semelle de tes pieds. Amen. Fait qu'on va le faire aussi. Amen. Et aussi, vous-même, vous avez besoin d'imposition des mains, on le fait aussi. Et je crois aussi que quand Pastoréal et moi, on impose les mains, on fait ce que la parole de Dieu dit. Vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Ça veut dire le processus de guérison est commencé. Mais je crois aussi que vous qui venez d'entendre la parole, vous êtes complètement en accord. Voyez-vous, quand Jésus allait prier, il emmenait Pierre et Jean souvent avec lui. Amen. Il savait qu'il était complètement en accord. Amen. Il amenait des apôtres avec lui. Et quand il arrivait, comme exemple, à la maison de Jaïrus où la petite fille était morte, il faisait sortir tout le monde qui pleurait puis qui doutait. Il faisait sortir. Amen. Mais voyez-vous, Dieu est en train de vous équiper, vous autres aussi, davantage, vous approfondir pour que vous croyiez, vous aussi. Fait que c'est plus que deux ici en accord que Dieu se manifeste par la guérison et que la guérison nous appartient dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes quasiment comme les disciples avec Jésus. Vous le croyez, vous autres aussi. Alors, rentrez en accord quand les gens viennent en avant pour avoir de la prière. Amen. Alléluia. On merci Seigneur.